en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui une grande figure du monde de l'économie et des finances en Europe. C'est Jean-Claude Trichet, ancien directeur du Trésor de 1987 à 1993, puis gouverneur de la Banque de France de 1993 à 2003, avant de devenir président de la BCE, la Banque Centrale Européenne, de novembre 2003 à novembre 2011. Jean-Claude Trichet, dont je rappelle qu'il a été élu le 22 février 2010 à l'Académie des sciences morales et politiques. Jean-Claude Trichet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de cette série, L'Essentiel. Cette question récurrente, posée donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs aussi, et leur motivation. Alors tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent, à vos yeux, Jean-Claude Trichet, le moment essentiel ?
Je serais tenté de répondre. Il n'y a pas eu un moment essentiel, il y a eu plusieurs moments essentiels, mais je dirais que j'ai eu deux grandes périodes extrêmement importantes, je crois, et certainement pour moi. Une période pendant laquelle j'ai eu, en tant que directeur du Trésor, puis en tant que gouverneur de la Banque de France, une partie de la responsabilité de mener la stratégie de désinflation compétitive, c'est-à-dire de remise à niveau et de préservation de la compétitivité de l'économie française sur longue période dans le contexte d'une stratégie que notre pays avait adoptée de manière bipartisane, multipartisane, les diverses sensibilités qui se sont d'ailleurs succédées pour exercer les responsabilités à la fois législatives et exécutives avaient la même stratégie qui consistait à essayer en effet de contrôler nos coûts, d'être aussi compétitifs que possible et donc de converger avec, disons, les économies d'Europe qui étaient prêtes à faire l'euro et à faire donc un grand pas en avant dans la direction de l'unité européenne en même temps. Et puis ensuite, j'ai eu la responsabilité de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire de gérer précisément cet euro.
En ce qui concerne dans cette expérience à la Banque de France, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les politiques, là, avaient une attitude de vraie politique. Enfin, on était où ?
Je suis en train de dire qu'effectivement, nous avons eu, bien entendu, après avoir constaté que d'autres stratégies ou d'autres tactiques économiques et financières et monétaires ne marchaient pas, il y a eu en effet une assez longue période pendant laquelle notre pays s'est orienté sur, ou a convergé, disons, sur la même stratégie. En tout cas, dans ce domaine, parce qu'il y avait bien entendu d'autres domaines, je me concentre sur ce à quoi je participais moi-même de manière aussi active que possible. Et c'est une période qui a toujours été pour moi une période très très importante, à la fois comme directeur du Trésor, puis comme gouverneur de la Banque de France.
Alors, lorsque vous devenez président de la Banque Centrale Européenne, c'est un autre type de pouvoir. En quoi est-il différent du pouvoir de gouverneur de la Banque de France ? C'est vraiment autre chose en termes de relations avec les politiques, en termes d'influence.
Je ne qualifierais pas ces responsabilités de pouvoir, mais de responsabilité. C'est une responsabilité évidemment considérable, comme celle qu'a exercée Jacques Delarosière, Michel Cantsuc, d'être gouverneur de la Banque de France et donc d'être responsable de la monnaie du pays, c'est-à-dire de la France. Quand j'ai été nommé président de la Banque Centrale Européenne, nous avions déjà l'euro. Et donc le président de la Banque Centrale Européenne est responsable de la monnaie de 333 millions de concitoyens aujourd'hui. Et évidemment, c'est une responsabilité extrêmement lourde. Plus lourde que d'avoir la responsabilité d'un seul pays, puisque c'était la responsabilité de la monnaie française, bien sûr, mais aussi de la monnaie italienne, de la monnaie allemande, de la monnaie néerlandaise, de la monnaie autrichienne, de la monnaie de l'ensemble des pays membres de la zone euro. Donc responsabilité très très lourde. Et pendant le mandat de 8 ans que j'ai eu cette responsabilité déjà extrêmement lourde pendant 4 ans. Et puis les 4 années suivantes, à partir de 2007, c'était les mêmes responsabilités, mais dans le contexte de la crise la plus grave que les pays avancés et tu as connaître depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Je crois justement, d'ailleurs que... Vous citez 2007, c'est un moment où beaucoup de gens vous ont découvert en 2007. La crise de subprime, on a dit, tiens, voilà Trichet qui monte en ligne. Et avec autorité, calme.
Oui, c'est pas moi personnellement qui est.
Ah, quand même, enfin quand même. Mais... Je rappelle que vous avez eu.
Oui, c'est vrai.
Que le Financial Times vous a décerné le titre de personnalité de l'année.
Oui.
En raison de cette gestion, la façon dont vous l'avez fait.
C'est la Banque Centrale Européenne elle-même. C'est l'institution qui a été découverte, et évidemment son président en même temps, si je puis dire, parce que curieusement, elle avait, je crois, très bien géré la monnaie unique des Européens depuis sa création, de manière. Très convaincante, dans un scepticisme total. Et l'idée s'était accréditée de la part du reste du monde que, bien entendu, nous avions réussi à gérer la monnaie unique, pas trop mal, sans faire de bruit spécialement, mais que, bien entendu, s'il y avait des défis très importants, nous serions absolument incapables de les assumer et de prendre les décisions indispensables, rapidement et de manière efficace. Or, c'est ce que nous avons démontré. Et donc là, la surprise mondiale a été qu'il y avait en effet une institution en Europe qui était capable de prendre des décisions très rapides, très audacieuses. Et le paradoxe des paradoxes a été que cette institution qui était considérée comme la plus pataude et la plus maladroite, en réalité a été la première à prendre de grandes décisions, prouvant qu'elle était capable en tant qu'institution d'être lucide et audacieuse. Ce qui n'était pas attendu, encore une fois, par les observateurs.
Je voudrais revenir un peu à l'origine de votre carrière. Vous avez donc fait l'école des mines et après réflexion, vous avez fait l'ENA. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire l'ENA à ce moment-là ?
J'avais toujours été très intéressé par l'économie en général, par la volonté de pénétrer le domaine économique. Et donc j'ai fait, en même temps que je faisais des études scientifiques, j'ai fait des études d'économie, à la fois à l'université et à l'école des sciences politiques. Et donc, c'est tout naturellement, si vous voulez, que j'ai présenté le concours de l'ENA et que je suis entré à l'ENA.
Oui, il n'y avait pas une idée de service public
Si. Enfin, oui, les deux idées, si vous voulez. Creuser une discipline qui m'apparaissait à la réflexion comme étant décisive dans notre époque, d'une part, et puis d'autre part, oui, servir l'État dans une tradition française qui est d'ailleurs très française, à vrai dire, quand on compare avec les autres cultures internationales, et qui est noble, je crois.
Alors, quand on regarde donc votre CV, on s'aperçoit que vous avez une très solide expérience également des cabinets ministériels, puisqu'en 78, vous êtes au cabinet de René Mounouri. 78-80 également, vous êtes à la présidence de la République avec Valéry Giscard d'Estaing. Et 86-87, directeur de cabinet d'Édouard Balladur, alors ministre de l'économie, des finances et, on l'a oublié, de la privatisation. Pourquoi ne vous êtes-vous pas engagé dans une carrière politique avec une telle expérience ? Il y a une méfiance ou l'idée que ce n'est pas votre tempérament ?
Je n'ai jamais envisagé une carrière politique. Jamais. Et les postes que vous évoquez ont toujours été, si vous voulez, des postes dans lesquels je me concentrais sur des questions qui étaient de nature technique, si je puis dire, économique, industrielle. J'ai eu la grande chance de suivre, si vous voulez, à leur naissance, ou proche de leur naissance, de très grands programmes, comme les programmes aéronautiques, l'Airbus, depuis le secrétariat général de l'Élysée, comme les biotechnologies et la naissance des biotechnologies, comme, je dois dire, l'aéronautique et l'espace. Et le programme Ariane était suivi avec une extrême attention. Bref. Je crois, si vous voulez, qu'il est absolument indispensable de creuser ces très grands programmes économiques, ces très grandes stratégies qui sont à la fois économiques dans une large mesure, j'ai déjà évoqué la désinflation compétitive, et aussi ces programmes technologiques très importants. Je suis très frappé aujourd'hui de voir que 30 ans après, nous avons maintenant une industrie aéronautique avec l'Airbus qui marche assez bien, et même très bien s'agissant précisément de ces avions. Et en ce qui concerne l'espace, Ariane est un très très grand succès. Or, ce n'était pas évident au départ. On avait eu des échecs commerciaux au départ avec Concorde, avec les fusées, vous savez, qui ne marchaient pas bien, les fusées européennes qui ne marchaient pas bien. Donc, quand on est appliqué, quand on poursuit des stratégies lucides, avec constance sur longue période, cela peut récompenser, disons, ceux qui se sont lancés dans ces stratégies.
Si j'évoque les images, par exemple, de Louis Armand sous la 4e République, de Paul de l'Ouvrier au début de la 5e, on peut dire que vous faites partie de cette famille des grands commis de l'État qui ont...
Écoutez, j'ai beaucoup d'admiration pour l'un et pour l'autre, qui dans des domaines différents ont été de très très grands commis de l'État, comme on dit en France. Là aussi, c'est une expression qui est purement française. je n'oserais pas me comparer à eux, mais enfin, bon, dans les domaines auxquels j'ai pu être associé, je dois dire que j'ai trouvé de grandes joies professionnelles.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire aujourd'hui, Jean-Claude Trichet, sur votre domaine d'activité? Alors, on va privilégier évidemment l'économie et la finance, ou les finances. Si vous aviez une idée à faire passer dans ces domaines-là sur...
J'en aurais deux. Une sur l'Europe et une sur notre pays. Sur l'Europe, je dirais, il est absolument indispensable de mener à bien, de manière extrêmement déterminée et aussi rapide que possible, l'ensemble des décisions déjà prises pour améliorer la gouvernance de l'économie et du budget et des budgets de la zone euro. Ça, c'est absolument indispensable. Et non seulement de mettre en œuvre les décisions déjà prises, mais d'aller nettement plus loin. Parce que l'expérience des 14 premières années de l'euro et la crise démontrent à l'évidence que nous avons besoin de renforcer le gouvernement, la gouvernance économique et budgétaire de la zone euro.
Mais vous considérez que l'euro est sorti d'affaire pour l'essentiel, que ce n'est plus le...
L'euro en tant que monnaie n'a jamais été mis en cause. Jamais mis en cause l'euro en tant que monnaie.
Oui.
Il a montré une résilience absolument remarquable dans la tourmente. Et par exemple, je vous donne simplement un exemple. Nous sommes 5 ans et demi après le début de la crise, même un peu plus. Et lorsque je regarde la valeur de l'euro contre dollar des États-Unis, nous ne sommes jamais descendus pendant toute cette période, qui a pourtant été une période extrêmement difficile, extrêmement pénible, et dans laquelle il y a eu à un moment des crises très graves, en Europe en particulier, eh bien la valeur de l'euro n'est jamais descendue en dessous de la valeur d'entrée vis-à-vis du dollar des États-Unis. Donc le problème n'est pas l'euro en tant que monnaie, le problème est là. Gestion de la zone euro avec un certain nombre d'économies qui ont eu des problèmes graves. Mais en tout état de cause, je dirais que ce que nous vivons en ce moment, ce que nous expérimentons en ce moment, c'est pour tous les pays avancés, pour tous les pays industrialisés, la nécessité de corriger des anomalies de gestion qui se sont accumulées depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Et si on traduit ça, dépenses publiques, non ?
Ceci est vrai des États-Unis, du Japon, de l'Angleterre et bien entendu de certains pays de la zone euro. Mais tous les pays avancés sont concernés, si vous voulez, par l'épisode actuel de la crise que nous affrontons au niveau mondial. Et bien entendu, l'un des messages que le reste du monde adresse en ce moment aux pays avancés, c'est ne dépensez pas éternellement plus que vous ne gagnez, car le reste du monde ne va pas vous financer éternellement pour dépenser plus que vous ne gagnez. Je simplifie naturellement beaucoup.
Mais c'est très marquant,
c'est le message.
Oui, mais c'est très marquant parce que dans vos différentes déclarations, il y a quelque chose qui revient assez souvent et qui étonne lorsque vous nous dites qu'il faudrait peut-être arrêter de donner des leçons à l'Afrique, par exemple. Parce que les Africains, sur le plan de l'adaptation de leur gestion, ils sont en avance sur pas mal de pays de la zone euro.
Je
simplifie, hein, oui. Mais bon.
Non, mais...
Pareil pour l'Amérique du Sud.
Je crois que dans certains domaines, il faut être aussi clair que possible. Tous les pays émergents ont prouvé, dans la crise que nous connaissons depuis 5 ans et demi, une solidité, une résilience, comme on dit aujourd'hui, sans comparaison avec celle des pays avancés. Les pays avancés ont eu une crise financière gravissime aux États-Unis avec les subprimes. Ils ont eu ensuite une crise financière encore beaucoup plus gravissime avec le dépôt de bilan de Lehman Brothers et une sorte de déflagration mondiale qui a menacé la totalité du système financier des pays avancés. Pendant toute cette période, les pays émergents d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie n'ont pas connu de crise, eux. Ils ont montré une solidité remarquable. Et dans la période la plus récente, qui est la crise des risques souverains, la crise des signatures des pays eux-mêmes, et qui marque évidemment plus particulièrement l'Europe, bien que ce soit une crise mondiale, les pays avancés, les pays européens de la zone euro sont particulièrement frappés, certains d'entre eux, eh bien, il n'y a pas de crise des signatures publiques dans les pays émergents. Donc, il faut reconnaître, si vous voulez, cela. C'est depuis la Deuxième Guerre mondiale, le premier épisode dans lequel les pays industrialisés prouvent une faiblesse qui n'est pas avérée dans les autres pays, dans les pays dits du tiers-monde, dans les pays émergents, comme on dit aujourd'hui, les pays en développement, comme on disait hier.
Alors, vous vouliez évoquer une deuxième idée concernant la France.
Oui, en France, j'évoquais la désinflation compétitive, stratégie multipartisane, destinée à redonner, année après année, à notre pays, compétitivité, croissance et création d'emplois. Et au terme de cette période, au début de l'euro, si vous voulez, nous étions dans une situation où la France avait un excédent de la balance des paiements courants, avait remarquablement réussi à se remettre à niveau en termes de compétitivité. Et c'était une époque où notre grand voisin de l'autre côté du Rhin, lui, avait un déficit de la balance des paiements courants et où nous vendions des voitures Renault comme des petits pains en Allemagne de l'autre côté du Rhin. Naturellement, l'Allemagne avait été handicapée par la réunification. Mais on voit bien, si vous voulez, que cette stratégie, qui a été très attentive, encore une fois, et multipartisane, avec les décisions qui ont été prises par Jacques Delors, puis qui ont été renforcées par la cohabitation de 86. 86-88, c'était, comme je vous l'ai dit, vraiment une stratégie multipartisane adoptée par les deux grandes sensibilités de notre pays. Eh bien, cette stratégie s'est évaporée, disons, avec la venue de l'euro. Parce qu'elle a été comprise, à tort évidemment, comme étant uniquement appropriée pour la marche vers l'euro, pour permettre de faire l'euro, mais elle n'apparaissait plus comme étant aussi décisive après la création de l'euro, ce qui était évidemment une très grave erreur.
D'où le fait que nous ayons le plus fort pourcentage de dette publique par rapport au PIB,
de dépenses publiques par rapport au PIB. Là, je suis...
Il y a un lien entre les deux,
Il y a un lien évidemment entre les deux, mais c'est un sujet différent.
C'est différent.
Qui demande lui aussi beaucoup de réflexion. Là, je parle vraiment de la compétitivité de l'économie et évidemment de la capacité que nous avons à séduire les consommateurs français, européens et mondiaux avec nos produits et nos services. Hein, puisque dans le monde d'aujourd'hui, il faut séduire les consommateurs pour avoir de l'emploi chez soi. Et de ce point de vue-là, on parle souvent de ceux qui ont une stratégie domestique, interne, et puis ceux qui se concentrent entièrement à l'exportation. Il y a une continuité complète. Si vous avez des produits, des biens et des services qui séduisent vos propres consommateurs, eh bien, ils séduiront aussi les Européens et aussi le reste du monde.
Autrement dit, il ne suffit pas de mettre un drapeau tricolore sur les produits pour que ça se vende.
Je crois que les consommateurs d'aujourd'hui, nos concitoyens, en France et partout dans le monde, achètent le meilleur rapport qualité-prix. Et il est très difficile de leur ôter, si vous voulez, cette liberté. Donc il faut d'abord, me semble-t-il, avoir un bon rapport qualité-prix, si possible, le meilleur rapport qualité-prix possible. Et ceci demande en effet d'être très attentif à ses coûts. Donc nous avons besoin, à mon avis, c'est le second message, si vous voulez, d'avoir une stratégie que je qualifierais aujourd'hui, parce que nous avons une inflation qui est en ligne avec la stabilité des prix, je crois, même si nos concitoyens sont encore assez sévères sur le niveau de hausse de prix en France, un peu injustement, parce que je crois qu'au total, sur longue période, ce qui a été fait a été bien fait. Donc ce serait une stratégie de stabilité compétitive. Mais il faut être très, très attentif année après année. Ce n'est pas une affaire, si vous voulez, dans laquelle on claque des doigts et on règle les problèmes. Non, c'est année après année, comme d'ailleurs nos amis et partenaires allemands ont fait, parce que lorsqu'ils se sont rendus compte au moment de la création de l'euro qu'ils n'étaient pas eux-mêmes compétitifs et que les Renault se vendaient comme des petits pains en Allemagne et pas les Volkswagen en France, eh bien, ils ont année après année augmenté, consolidé et amélioré leur compétitivité.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de situation irréversible.
En contrôlant leurs coûts de manière remarquable. Évidemment, il n'y a jamais de situation irréversible.
Alors qu'on dit toujours l'Allemagne ceci, l'Allemagne ceci, l'Allemagne ceci, la France cela. C'est pas
non,
ça.
Non, je ne crois pas. Je ne crois qu'il n'y a absolument aucune fatalité.
Un volontarisme.
Aucune fatalité. Il y a, l'histoire n'est jamais écrite. Elle dépend de ceux qui prennent des décisions et, je dois dire, dans une très large mesure, de la lucidité des opinions publiques elles-mêmes. La force des 15 à 20 années que j'évoquais, si vous voulez, dans lesquelles nous avions un consensus, c'était que l'opinion publique elle-même soutenait finalement la stratégie qui avait été engagée. Je crois que nous avons besoin aujourd'hui de la même chose, c'est-à-dire de bien comprendre que croissance, création d'emplois, parce que c'est évidemment l'objectif absolument central, suppose que nous soyons compétitifs, donc que nous ayons un bon rapport qualité-prix de nos biens et de nos services pour séduire les consommateurs français, européens et la grande exportation, c'est la même chose. C'est la même chose.
Ça veut dire que la démocratie doit se transformer en république, quoi.
Vous conceptualisez, et à juste titre, naturellement, Je crois en tout cas que l'un des facteurs les plus discriminants maintenant entre les pays dans le monde est certainement la lucidité de leur opinion publique, la lucidité stratégique du débat public.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, on va élargir les perspectives, bien qu'ayant déjà abordé en partie cette question. Donc votre regard sur le monde en général et l'évolution de notre société. Quelle est, Jean-Claude Trichet, l'idée essentielle que vous aimeriez faire passer en dehors de ces perspectives que nous venons d'aborder?
La question est évidemment extraordinairement vaste parce qu'il y a le monde.
Il y a une part de jeu.
Il y a le monde, il y a notre continent, notre pays. Je crois, comme je l'ai dit, que nous vivons en ce moment une crise des pays avancés. Tous les autres continents ont eu leur propre ajustement nécessaire, rendu nécessaire par une crise en Amérique latine, en Afrique, dans le Proche-Orient avec l'Égypte, s'agissant de l'Europe centrale et de l'Est et de l'Union soviétique avec le changement total de concept économique et l'effondrement de l'Union soviétique. Et l'Asie, qui pensait avoir été épargnée par tout cela, elle-même a été frappée, comme vous vous en souvenez, à la fin des années 90. Bref, le tour des pays avancés est arrivé. Et en ce qui concerne les pays avancés, ils ont devant eux énormément de travail à faire parce qu'ils se sont habitués à avoir la rente de situation d'avoir été les inventeurs finalement de l'économie moderne, de l'industrie bien sûr, de l'économie de marché. Ils ont inventé les règles qui permettent de fabriquer des biens et des services, de connaître une formidable expansion économique et ils pensaient pouvoir en tirer éternellement profit. Ils n'en tirent pas éternellement profit, pas plus d'ailleurs que ceux qui avaient inventé l'écriture n'ont tiré éternellement profit de leur invention de l'écriture. Les Sumériens avaient inventé l'écriture, et puis ensuite, elle a été utilisée dans le monde entier, et très bien, par beaucoup d'autres, y compris par les Européens, qui ne se sont pas sentis une dette de gratitude extraordinaire. C'est exactement la même chose, nous avons inventé des concepts, nous sommes les inventeurs, mais tout le monde utilise naturellement nos concepts, et notamment ceux de l'économie de marché. Le grand, grand message que j'aurais au niveau mondial, si vous voulez, serait que par cette généralisation de l'économie de marché au niveau du monde, nous avons créé un nouveau concept d'économie mondiale intégrée, à la fois financièrement et aussi en termes commerciaux, en termes d'interdépendance généralisée entre les diverses nations, les diverses économies. Et nous n'avons pas encore de gouvernance mondiale satisfaisante. J'évoquais la gouvernance européenne dans la zone euro qui est très insuffisante encore et qui demande à être améliorée. C'est la même chose au niveau mondial.
Vous voulez dire que G20 et FMI, ça ne suffit pas, quoi.
Les institutions internationales ont fait un travail assez considérable, mais elles ont été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à une époque où nous n'avions pas encore une économie mondiale intégrée. Nous avions des segments d'intégration qui étaient relativement limités, pas de planète intégrée. Et à vrai dire, cette intégration de la planète s'est faite progressivement, avec d'ailleurs un très très grand pas en avant dans les années 80 et 90, avec la conversion de la Chine à l'économie de marché, puis la conversion de l'Union soviétique à l'économie de marché. Là, maintenant, nous avons, et nous l'avons bien vu au moment de la chute de Lehman Brothers, on a vu un seul événement relativement modeste dans le monde se propager sur l'ensemble de la planète et dans tous les domaines, finalement, à la fois géographiques et sectoriels, c'est-à-dire les institutions financières menaçaient de s'effondrer. Toutes les institutions non financières avaient elles-mêmes totalement changé dans les pays développés comme dans les pays émergents, leur mode de fonctionnement. Et nous avons vu se déchaîner littéralement la menace d'une grande dépression au niveau mondial. Alors, quand on est en présence de phénomènes de ce genre, qui sont les phénomènes émergents de la nouvelle entité mondiale intégrée que nous avons créée spontanément, sans qu'il y ait de plan à l'avance, mais elle est là. Il faut effectivement gérer cela.
Mais vous le voyez comment? Vous voyez une OMF comme il y a une OMC, une organisation mondiale de la finance?
Je vois les choses bouger. Et bouger plus qu'on l'imagine, si vous voulez. Avant la crise, le groupe informel qui avait l'ambition de préparer la gestion mondiale intégrée, c'était le groupe des 7 ou des 8, le G7, le fameux G7, G8. Et c'était là qu'était le centre de la discussion informelle pour la gestion du monde. Maintenant, c'est le G20. Et effectivement, le bâton, si je puis dire, de la discussion informelle pour la gestion du monde est passé d'un petit groupe d'industrialisés, d'un tout petit groupe d'industrialisés, au groupe des pays industrialisés et émergents qui ont une influence systémique sur le monde. On a autour de la table maintenant, bien entendu, la Chine, bien entendu, l'Inde, bien entendu, le Brésil, le Mexique et la Russie, et pas simplement un petit groupe d'industrialisés. Donc, le concept de gestion informelle du système mondial intégré a évolué de manière extraordinaire au cours des toutes dernières années. Historiquement, c'est un changement absolument majeur. Et évidemment, un changement qui était souhaitable, parce qu'il était absolument clair qu'il n'y avait évidemment aucune raison, il y a 10 ans, d'écarter de la gestion informelle de ce système mondial intégré des grands pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et le Mexique que je viens d'évoquer. Mais évidemment, ce sera encore infiniment plus vrai dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, car là, pour le coup, alors la structure du monde est appelée à changer de manière absolument extraordinaire. Donc, les choses changent. Nous sommes au milieu du gué. C'est un peu comme en Europe. On est au milieu du gué. On a fait beaucoup de choses, beaucoup plus d'ailleurs qu'on ne l'imagine ou qu'on ne le reconnaît. On croit le monde immobile. Non, le monde n'est pas du tout immobile. L'Europe n'est pas du tout immobile, pas plus que le monde. Mais évidemment, les défis sont toujours là. Ils sont considérable et il faut aller nettement plus loin. Alors, on peut dire que, d'une certaine manière, si vous voulez, qu'on a rendu le système mondial beaucoup plus inclusif. On a maintenant tous les pays émergents systémiques. Il faut le rendre beaucoup plus efficace, car nous ne sommes pas encore à un niveau d'efficacité de cette gestion mondiale qui serait...
Est-ce que vous avez l'impression qu'on y arrivera plus facilement dans ces domaines de la gestion économique et financière, plus que dans la gestion politique du monde ? À vous entendre, on a cette impression là, quand même, qu'il y a une espèce de fluidité qui fait que les choses se mettent en place spontanément, alors que sur le plan politique, ce n'est pas le cas. On a plutôt l'impression d'une régression.
Oui, je pense que les deux sont quand même liés, bien sûr. C'est que nous sommes dans un monde où, on l'a vu, l'interaction entre l'économique et le politique est considérable. Après tout, si l'Union soviétique s'est effondrée, c'est parce qu'elle a connu un échec économique absolument majeur. Si la Chine a décidé de se convertir à des principes d'économie totalement différents, c'est parce qu'elle comparait simplement son produit intérieur brut à celui de Taïwan. Taipei, qui est absolument minuscule, à un moment représentait potentiellement le tiers du produit intérieur brut de la Chine continentale. C'était évidemment intolérable. Donc l'échec économique est évidemment un moteur politico-stratégique absolument, je crois, monumental. Mais bien entendu, il n'y a pas que cela. Mais je ne serais pas non plus trop pessimiste moi-même sur l'évolution politique du monde. Après tout, j'ai connu moi-même, au début de ma carrière, un monde qui était une matrice très simple. Vous aviez l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Et chacun était dans sa case. Mais ces cases étaient très, très séparées. On était réellement dans des univers différents, avec un Sud qui aspirait au développement, mais en fait dont l'écart se creusait avec le Nord, et sans espoir réellement d'en sortir, alors que nous sommes dans une période de rattrapage extraordinaire du ce qu'on appelait le Sud par rapport au Nord. Et puis, il y avait bien entendu l'Est et l'Ouest. L'Est et l'Ouest, c'est les pays avancés, et l'Est et l'Ouest, c'est les pays en développement. Nous sommes maintenant dans une matrice mondiale qui est unifiée. Nous sommes tous dans la même case. Et d'ailleurs, on le voit bien avec le G20. Dans le G20, nous sommes tous là. Sauf peut-être un ou deux pays dans le monde qui ont des concepts totalement différents. Mais l'unification conceptuelle du monde à laquelle j'ai assisté moi-même, si vous voulez, de manière dans les réunions internationales, dans les décisions que nous avions à préparer, à appliquer, à exécuter, tout cela est profondément réconfortant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques et des dangers colossaux. Il ne faut pas être naïf. Mais enfin, il ne faut pas non plus nier, si vous voulez, les progrès qui ont pu être faits.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Jean-Claude Trichet, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ?
La plus grande hypocrisie de notre temps.
Si vous voulez un joker, vous avez le droit, mais...
Non, pourquoi demander un joker ? Simplement, laissez-moi réfléchir. Je pense tout haut. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans notre temps, certainement. Peut-être que je ne réponds pas exactement à la question sur l'hypocrisie, mais je dirais précisément la difficulté que nous avons, c'est de comprendre que nos principaux problèmes sont dans une assez large mesure la rançon des succès que nous avons eus. Et ça, nous ne le disons pas, si vous voulez. Les pays avancés sont des pays qui doivent évidemment s'adapter de manière permanente parce qu'il y a maintenant la Chine, l'Inde, le Brésil et le Mexique. Et pas que cela. Mais parce qu'il y a aussi l'Indonésie, il y a aussi la Corée du Sud, etc. Enfin, nous sommes dans un monde complètement nouveau.
Et bientôt un grand pays africain,
Nous n'avons plus de rente. Et nous sommes ébranlés. Et si nous voulons préserver notre niveau de vie et notre prospérité, il faut évidemment que nous nous adaptions en permanence sous cette poussée des pays dits émergents. Mais après tout, c'est exactement ce que nous avions souhaité. Nous avons dit, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les écarts entre pays riches et pays pauvres sont insupportables. Il faut évidemment créer une banque mondiale.
Mais c'était Bretton Woods, tous ces
accords. Oui, voilà, tous les accords de Bretton Woods et la création des Nations Unies. Le concept de rattrapage des riches par les pauvres est évidemment un formidable succès. Un formidable succès des pères fondateurs qui étaient évidemment les pays en développement, les pays le nôtre et les autres pays industrialisés étant eux-mêmes partisans, si vous voulez, ardents de ce rattrapage, de cette égalité. Mais évidemment, quand l'égalité vient, elle bouscule beaucoup. Et c'est un de ces succès, si vous voulez, qui sont extraordinairement difficiles à gérer. Un autre succès prodigieux est évidemment celui de la science et de la technologie. Il nous bouscule énormément, nous, particulièrement pays avancés, parce qu'il provoque des changements perpétuels dans les processus de fabrication, dans l'organisation même des sociétés. Et ceci demande à s'adapter en permanence. Donc nous sommes contraints à l'adaptation permanente parce que nous avons fait des progrès. C'est évidemment la science et la technologie, elles viennent des pays avancés, elles se sont généralisées, elles sont maintenant partout dans le monde. Très, très grand succès. Très difficile à gérer. Puis un troisième succès, alors également absolument prodigieux, très difficile à gérer, c'est l'accroissement de la longévité. Nous gagnons des heures tous les jours et des mois toutes les années de vie. Il n'y a pas de plus grand succès que cela, d'une certaine manière. Mais cela provoque évidemment des changements monumentaux dans le financement des pensions et retraites dans tous les pays. Et curieusement, c'est un de ces succès prodigieux que nous avons beaucoup de mal à gérer. Parce que, chacun sait que ce sont des questions qui sont difficiles et que les gens, nos concitoyens, ont partout dans le monde, pas simplement dans notre pays, mais peut-être parfois beaucoup plus dans notre pays que dans d'autres pays, du mal à comprendre que c'est évidemment la contrepartie d'un succès prodigieux. Donc voilà, je vous livre cette contradiction entre des succès prodigieux que nous ne présentons pas du tout comme des succès, mais plutôt comme des difficultés plus ou moins monumentales. Dans tous les cas, nous sommes contraints à l'adaptation et à une adaptation permanente, comme si nous voulons bien entendu conserver notre position, notre niveau de vie, notre emploi.
Alors qu'à vous entendre, on a l'impression que notre tentation permanente est de vouloir arrêter l'histoire et de s'asseoir sur une supériorité présumée.
Je crois que les pays avancés trouvent que ça va quand même trop vite, tout ça. Alors que les pays émergents sont ravis que ça aille vite, évidemment. Et ça fait une énorme différence. Une énorme différence.
Mais ça veut dire qu'ils sont plus adaptés que nous à l'évolution, hein, à la fluidité du monde.
Ça veut dire que nous sommes contraints à une adaptation
qui est spontanée chez eux,
qui est difficile. Et chez eux, c'est un peu l'équivalent de ce que nous avons connu nous-mêmes avec les Trente Glorieuses. C'est-à-dire que lorsque des agriculteurs se transforment, ce qui est le cas évidemment dans les pays émergents, en employés dans les services ou en ouvriers dans l'industrie, ça se passe naturellement dans l'allégresse parce qu'on quitte finalement un secteur dans lequel le travail était dur et la rémunération maigre pour aller dans un secteur qui est de ce point de vue-là plus attirant. Sinon d'ailleurs il n'y aurait pas cette formidable émigration vers les villes venant des campagnes. Donc rien n'est étonnant dans ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est que effectivement le moral général des opinions publiques dans les pays émergents est bon en ce moment. La croissance est importante, les niveaux de vie augmentent année après année, et le moral des opinions publiques est plus nuancé dans les pays avancés, il est clairement bien meilleur dans les pays qui s'adaptent très vite. Parce que dans les pays qui s'adaptent très vite, on tire le meilleur parti, si vous voulez, d'un monde qui change de manière prodigieuse.
Donc la plus grande urgence dans nos sociétés est une pédagogie du changement.
C'est une manière de résumer les choses, oui, à laquelle j'adhérerais tout à fait. Oui.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Vous avez en partie répondu, largement répondu d'ailleurs, mais peut-être voudrez-vous ajouter autre chose. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir, Jean-Claude Trichet ?
C'est très simple, en effet. J'ai répondu un peu par anticipation. Je crois que nous vivons une période où le grand programme que nous nous étions fixé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale se réalise petit à petit, avec son formidable succès et bien entendu les défis nouveaux qu'il provoque et qu'il entraîne. Mais il ne faut pas oublier ses formidables succès.
Sixième question de notre série L'Essentiel. Quel a été, Jean-Claude Trichet, le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter ?
Écoutez, c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre.
Certes.
Mais je dirais peut-être.
Peut-être, oui.
Peut-être le fait de n'avoir pas réussi à convaincre, au terme de cette période bipartisane de stratégie de désinflation compétitive, qu'il fallait continuer la même stratégie, qu'il fallait la continuer, cette stratégie, avec beaucoup d'attention, et je dirais même plus d'attention encore, parce que lorsqu'on est dans un mécanisme de change et qu'on décide de ne pas réaligner, ce qui était le cas de la France, hein, la France était dans le mécanisme de change avec un certain nombre d'autres devises européennes, avec l'ambition de faire l'euro, de préparer l'euro, et bien entendu l'engagement solennel de ne pas réaligner la monnaie nationale, le franc, par rapport aux autres monnaies sérieuses, solides de ce mécanisme de change, donc le florin, le Deutschmark, les autres monnaies. C'est une chose que de prendre cet engagement. C'en est une autre, encore plus contraignante que d'être dans une monnaie unique, où là, ce n'est pas que vous ayez pris un engagement politique de ne pas réaligner. Le réalignement est impossible. Donc tous les arguments qui plaidaient pour une stratégie dite de désinflation compétitive, de surveillance très attentive des revenus, des coûts et de l'inflation domestique dans la période préparatoire à l'euro devenaient encore plus évidentes, encore plus nécessaires dans la période d'après l'euro. Et ce n'est pas ce qui a été au total perçu par la large opinion.
Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
Parce qu'on avait probablement présenté les choses non pas comme une stratégie permettant croissance et création d'emplois pendant les années 80 et 90, mais comme une stratégie exigeante et nécessaire pour parfaire l'Union européenne. Donc la raison politique, disons au sens noble du terme, qui avait été donnée, qui était en même temps une raison politico-économique, politico-monétaire, ne disait pas tout simplement ce qui est évident, à savoir que on renforçait la compétitivité, donc la croissance et la création d'emplois. Ce qui était pourtant observé, mais ce n'était pas l'argument qui était donné. Et c'est un fait que les événements historiques ont voulu que nous disions, ben nous avons atteint nos objectifs. Enfin, je réinterprète, évidemment, c'est toujours très difficile à faire, je réinterprète le sentiment diffus en France, là aussi bipartisan, multipartisan, ça n'a rien à voir avec le débat politique, mais tout le monde s'est dit, bon, ben très bien, on a atteint nos objectifs, alors maintenant, laissons fonctionner les choses spontanément. Eh bien, spontanément, en effet, on a perdu le sens, si vous voulez, de la nécessité absolue de cette compétitivité que j'évoquais. Chez notre grand voisin, il était lui-même, je l'ai déjà dit, dans une situation de non, de sous-compétitivité. Il avait un déficit de la balance des paiements courants. Il s'est donc retrouvé dans une situation un peu plus difficile. Et il a engagé, lui, alors, à ce moment-là, une stratégie. Et aujourd'hui, il se trouve dans une meilleure situation. Mais comme on le disait tout à l'heure, rien n'est irréversible, évidemment. Et il est absolument clair que nous devons maintenant, en effet, année après année, consolider, regagner notre compétitivité, la consolider, la préserver.
Mais de qui viendra cet effort de lucidité, de réflexion ?
Oh, je crois qu'on y est.
On y est
très clairement. Tout le débat sur notre propre compétitivité est un débat public que vous n'aviez pas au cours de toutes ces dernières années.
Vous aviez fait une communication très importante et très remarquée, vous, à l'Académie des sciences morales et politiques, sur la compétitivité.
Oui.
On retrouve quelques éléments dans le rapport Gallois, d'ailleurs, entre parenthèses.
Écoutez, je crois, encore une fois, il est très important d'observer l'évolution de l'opinion, du débat public.
Et vous sentez que ça évolue sur ce point-là ?
Il me semble, ça me semble incontestable, si vous voulez, que ne serait-ce que parce que on fait bien le rapprochement entre le manque de compétitivité, le fait que nous avons toujours un chômage trop important, le fait qu'il faut effectivement renforcer le secteur productif en France. Tout cela me paraît faire l'objet, si vous voulez, d'un large débat public et j'espère beaucoup que nous pourrons le transformer, non seulement, comme on le disait tout à l'heure, en des efforts immédiats et importants, mais en des efforts continus, année après année. C'est la clé de tout, ça. Effort continu, année après année.
Longue patience.
Ce que nous avions fait en 80 et 90, ce que les Allemands ont fait pendant chacune des 13 dernières années, chacune des 14 dernières années.
Septième et dernière question récurrente dans notre série L'Essentiel. Jean-Claude Trichet, quelle est aujourd'hui votre motivation essentielle dans la vie ?
Aujourd'hui, ma motivation essentielle dans la vie...
Vous avez le droit de parler de choses personnelles.
Oui, oui. C'est d'abord d'essayer de réfléchir sur tout ce qui s'est passé. Il se trouve que j'ai pu à la fois participer, si vous voulez, à des stratégies, comme je l'ai dit, de longue période sur le plan économique, aussi d'une certaine manière peut-être dans le domaine de grands programmes. Et puis j'ai eu la chance, ou la malchance, mais enfin, j'ai eu à gérer aussi des crises extrêmement graves. Et donc ça donne une sorte de vision binoculaire, parce que vous avez à la fois une vision de ce que l'on peut réaliser dans le long terme, lorsque les choses sont continues et lorsque on a suffisamment, au niveau collectif, de détermination. L'histoire de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale est de ce point de vue extrêmement frappante, importante et a été décisive, je pense, au niveau non seulement européen mais mondial. La recherche de l'unité par des voies continues, avec des moments d'arrêt puis des moments de progrès. Et puis il y a les crises. Les crises ont la vertu de vous donner une sorte de passage au rayon X des situations. En période de crise, vous voyez les lignes de fracture, vous voyez la structure, l'architecture interne, beaucoup mieux qu'en temps normal. Et donc, si vous voulez, le besoin le plus fort que j'ai en ce moment, c'est de réfléchir à tout ça. Et puis, j'ai la chance d'avoir un certain nombre de responsabilités en ce moment qui sont assez stimulantes intellectuellement, par exemple d'être le chairman du groupe des 30, où je retrouve d'ailleurs des gens qui réfléchissent sur les questions mondiales, et notamment un membre ultra éminent est Jacques Delarosière, on se retrouve à New York de temps en temps. Lui, il a une expérience absolument colossale en tant que directeur du Fonds monétaire international, gouverneur de la Banque de France. Il a une vision multioculaire remarquable. Et puis, j'ai la chance aussi d'être président du conseil d'administration de Bruegel à Bruxelles, qui est un think tank européen, mais qui a une ambition mondiale aussi, avec un formidable directeur général, M. Pisani-Ferry, et des collaborateurs tout à fait éminents qui travaillent avec lui. Bref, voilà des défis intellectuels qui correspondent certainement au temps présent et à tous ces défis.
Question plus personnelle, qu'est-ce que toute cette activité exceptionnel vous a le plus apporté en tant qu'homme ?
Est-ce que je peux moi-même répondre à une telle question ? Il faudrait plutôt interroger des personnes qui ne sont pas jugées parties, si je puis dire. Moi, j'ai eu énormément de chance. Je considère même que j'ai eu une chance incroyable parce que, notamment en ce qui concerne l'évolution de notre pays et de l'Europe sur longue période, j'ai pu, si vous voulez, être successivement directeur de cabinet du ministre des Finances à un moment où précisément nous renforcions la stratégie qui avait été engagée par Jacques Delors, avec Édouard Balladur et 86-88. Puis j'ai été pendant 6 ans directeur du Trésor, puis pendant 10 ans gouverneur de la Banque de France, puis pendant 8 ans président de la Banque Centrale Européenne. Or, quand je réunis toutes ces responsabilités, si vous voulez, qui étaient des responsabilités à la fois modestes, certainement pas décisives, mais qui me permettaient de participer activement à ce qui se faisait sur le plan de la stratégie, je dirais à la fois de la France et de notre continent, ça fait un an, plus 6 ans, 7, plus 10, 17, plus 8, 25. Donc ça une donne, génération. Si vous voulez, une longue période.
Une génération.
Une longue période, une période fascinante, et avec une énorme continuité, puisque d'une certaine manière, c'était finalement, en tout cas pour ce qui concerne le noyau central, si vous voulez, de la stratégie, c'était le même concept qui se poursuivait. Donc une très, très grande chance. Et je suis parfaitement conscient de cela. Je m'en rends compte maintenant, si vous voulez, plus, parce que j'ai été sans arrêt, évidemment, dans les...
À la mine.
Dans la mêlée, parce que ça, rien de tout cela n'a été très, très facile, et certainement pas la dernière période.
Alors, on vous connaît comme financier, comme homme de l'économie, mais ce qu'on sait moins, c'est que vous appartenez à une famille de grande culture. Votre père était normalien. Si je suis bien informé, c'était un grand ami de Georges Pompidou et de Léopold Sédar Senghor. Et vous avez un fils qui est saltimbanque, producteur de musique électronique. C'est un choix qui vous comble ou qui vous...
Premièrement, ce que vous avez dit est parfaitement juste, et j'ai eu la très grande joie d'être moi-même, si vous voulez, auditeur de Léopold Sédar Senghor, déclamant ses poèmes chez mes parents, et quand j'étais enfant, et même être élevé au rang de membre du chœur par Léopold Sédar Senghor, nous demandant de dire dans la langue qui était la sienne et qui est celle de sa famille, il a bien parlé, ce qui dans mon souvenir se disait de gueule. Et donc c'était un homme extraordinaire, lumineux, bon, vraiment, vraiment exceptionnel. Et effectivement, mon père avait gardé énormément de relations étroites avec ses collègues, ses condisciples de l'École normale supérieure, y compris Georges Pompidou et d'autres... anciens élèves de l'École normale supérieure. Mais mon fils lui-même a été tenté par la composition musicale, mon fils cadet, Nicolas. Il a écrit et composé plusieurs morceaux de musique techno, il a des disques, etc. Il s'est un peu éloigné et maintenant il est lui-même, si vous voulez, dans l'institution qui finance le cinéma et la musique. Donc il n'a pas quitté l'art. Je ne sais pas ce qu'il fera demain et après-demain, mais enfin, il a été très actif à un moment, en effet, dans la composition musicale de musique techno.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message à vos enfants, justement, et à tous ceux que vous aimez de toute cette expérience-là, si riche ?
D'abord que le monde évolue énormément, que l'histoire n'est jamais écrite, et donc il faut toujours considérer que l'on a une réelle influence sur ce qui se passe. Et cela, même si on a le sentiment d'être un fétu emporté par un mouvement extrêmement puissant, mais ce n'est pas vrai. Nous avons tous, chacun à notre niveau, une responsabilité beaucoup plus importante que nous ne le soupçonnons. Il ne faut jamais sous-estimer sa propre influence, si je puis dire. Quand on est citoyen, à la base, on a tout à fait tort de sous-estimer sa propre influence.
Ah mais ça, c'est gaulien, ça.
Dans tous les domaines. Oui.
Est-ce que vous pourriez reprendre à votre compte le message de Steve Jobs aux étudiants de Stanford? C'était en 2005. Il disait ceci: « Soyez insatiables, soyez fous, ne soyez pas prisonniers des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. » C'est quelque chose que vous pourriez dire ou ça vous paraît un peu démago?
D'abord, je ne crois pas avoir l'autorité de Steve Jobs pour pouvoir dire ça. Mais je dirais effectivement, d'abord, dites ce que vous pensez. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Vous avez plus souvent raison que vous ne le croyez. Et je crois très, très profondément à cela. Nous avons, si vous voulez, nous sommes capables de faire, évidemment, soi-même, on peut faire de grandes bêtises, de grandes erreurs. Mais collectivement, nous pouvons faire de terribles erreurs. Personne n'imaginait que le système financier mondial était fragile à ce point. Personne n'imaginait que les pays avancés pouvaient un jour avoir des problèmes de financement de leur trésor, de leurs États, qui puissent revêtir le niveau de gravité que nous avons dû affronter depuis le début de l'année 2010. Donc la communauté internationale tout entière peut se tromper. Elle peut être tranquille alors qu'elle ne devrait pas l'être. Elle peut peut-être aussi, d'ailleurs, être extraordinairement inquiète par des sujets qui, en fait, ne sont pas des sujets aussi gravissimes. En tout cas, on a le devoir d'État, si je puis dire, à quelque poste que ce soit, à quelque niveau que ce soit, de dire ce que l'on pense, de ne pas hésiter à dire ce que l'on pense, et de ne pas croire, encore une fois, que l'histoire est déjà écrite. L'histoire n'est jamais déjà écrite. C'est une manière de paraphraser Steve Jobs.
Si je vous comprends bien, on pourrait résumer ce que vous dites par trois mots. Debout, lucide, persévérant.
Là aussi, vous marquez une capacité de synthèse absolument remarquable.
Ainsi t'achève cet essentiel. Mon invité était donc aujourd'hui Jean-Claude Trichet, dont on comprend pourquoi il a fait toute cette carrière. Je rappelle qu'il a été gouverneur de la Banque de France de 1993 à 2003, puis président de la Banque Centrale Européenne de 2003 à 2011. Jean-Claude Trichet, qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Jean-Claude Trichet, merci.
Merci beaucoup.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.